Chapitre 3. Dans son bureau de Mutch Benham, le colonel Melchett épluchait les rapports de ses subordonnés. «
Ce qui fait tout paraître clair, monsieur, » conclut l'inspecteur Flemm. « Après dîner, Madame Bantry est allée passer un moment dans la bibliothèque et puis elle est montée se coucher un peu avant 22h. Elle a éteint les lumières en quittant la pièce et il est vraisemblable que personne n'y est entré ensuite. » Les domestiques se sont mis au lit à 22h30 et Lorimer, après avoir posé les boissons dans le hall, en a fait autant à 22h45. Personne n'a rien entendu d'inhabituel, à l'exception de la troisième bonne qui, elle, en a entendu un peu trop. Des gémissements, un cri à vous glacer le sang, des bruits de pas sinistres et je ne sais quoi encore. La deuxième bonne, qui fait chambre commune avec elle, affirme que sa camarade a dormi toute la nuit comme un loir. Ce sont ces gens qui inventent des histoires qui nous causent le plus de problèmes.
Et à propos de la fenêtre qui a été forcée?
Du travail d'amateur, d'après Simons. Effectué avec un vulgaire ciseau à bois, le coup classique. Ça n'a pas dû faire beaucoup de bruit. Il devrait y avoir un ciseau à bois quelque part dans la maison, mais personne n'arrive à remettre la main dessus. Ce qui n'a rien d'extraordinaire. C'est toujours la même histoire quand on cherche un outil.
Vous pensez que les domestiques pourraient savoir quelque chose?
Non, monsieur, répondit Flemm à contre-cœur. Je ne le crois pas. Ils étaient tous sous le choc, complètement retournés. J'ai eu des doutes au sujet de Lorimer, pas très coopératif le bonhomme, mais je crois que c'était sans fondement.
Melchett approuva de la tête. Lui-même n'attachait aucune signification à la réticence de Lorimer. Le ton cinglant de l'inspecteur Flemm produisait souvent cet effet sur les gens qui l'interrogeaient. La porte s'ouvrit et le docteur Haydock entra.
« Juste un saut pour vous donner les premiers résultats. »«
Vous tombez à pic. Alors ?»«
Pas grand-chose, comme on pouvait s'y attendre. Mort par strangulation. La ceinture en satin de sa robe passée autour du cou et serrée par derrière. Facile et simple à réaliser. Il n'aura pas fallu beaucoup de force, si la fille a été attaquée par surprise, s'entend. Or, il n'y a aucune trace de lutte. »«
L'heure du décès ?»
Mettons entre 22h et minuit.
Vous ne pouvez pas être plus précis?
Haydock secoua la tête avec un petit sourire.
Je ne risquerai pas ma réputation là-dessus. Pas avant 22h et pas après minuit.
Personnellement, vous opteriez plutôt pour quelle heure?
Ça dépend. Il y avait du feu dans la cheminée. La chaleur de la pièce a dû retarder la rigidité cadavérique.
D'autres détails sur la victime?
Guerre. Elle était jeune, 17 ou 18 ans. Pas encore pleinement formée, mais bien développée du point de vue musculaire. En parfaite santé. Et virgo intacta, au fait.
Après un salut de la tête, le médecin quitta la pièce. Melchett se tourna vers l'inspecteur.
Vous êtes sûr que personne ne l'avait jamais vue à Gossington?
Les domestiques sont formels. Ils ont même très mal pris la question. D'après eux, s'ils l'avaient croisé dans le voisinage, ils s'en seraient souvenus.
« Je veux bien le croire, » fit Melchett. « Une fille de cet acabit dans une région comme celle-ci, on la repère à des kilomètres à la ronde. Voyez la poule de Blake. »«
Dommage que ce ne soit pas elle, » dit Flemm. « On aurait au moins pu avancer un peu. »«
Pour moi, cette fille a dû venir de Londres, »
marmonna le chef de la police.
On ne trouvera pas de piste locale. Dans ces conditions, je crois qu'on serait bien avisé d'en référer au Yard. Cette affaire est davantage de leur ressort que d'une autre.
Elle n'est pourtant pas venue pour rien, dit Flemm. À mon avis, le colonel et Madame Bantry doivent savoir quelque chose.
Bien sûr, risqua-t-il. Je sais que ce sont des amis à vous, monsieur, mais...
Melchett le gratifia d'un regard glacial.
« Soyez certain que je prends toutes les hypothèses en considération, »
assura-t-il sèchement.
« Toutes. » Vous avez consulté la liste des disparitions, j'imagine. »
Flemm confirma de la tête et sortit une feuille dactylographiée.
« Je l'ai ici. Madame Saunders, disparue depuis une semaine, cheveux foncés, yeux bleus, 36 ans. Ça n'est pas elle. D'ailleurs, tout le monde sait, sauf son mari, qu'elle a filé avec un voyageur de commerce, un gars de Leeds. » Madame Barnard, 65 ans. Pamela Reeves, 16 ans, pas rentrée chez elle la nuit dernière après avoir participé à un rassemblement d'éclaireuses. Cheveux châtain foncé, natte, 1m65.
Arrêtez de me lire des idioties, Flem. Elle n'avait vraiment rien d'une écolière. À mon avis...
La sonnerie du téléphone l'interrompit.
Allô? Oui? Oui, police de Mutchbenham. Quoi? Un instant.
Il griffonna rapidement quelques notes, puis relut sur un ton de voix nouveau.
Rubikine, 18 ans, danseuse professionnelle, 1m63, corpulence mince, cheveux blonds, platine, yeux bleus, nez retroussé, portait une robe du soir en satin blanc, des sandales en lamé argent. C'est ça? Comment? Oui, sans aucun doute. Je vous envoie Flem tout de suite.
Il raccrocha et regarda son subordonné avec un enthousiasme naissant.
On tient le bon bout, je crois. C'était la police du Glenshire.
Le Glenshire était le comté voisin.
Une fille a été portée disparue à l'hôtel Majestic de Denmouth.
Denmouth, répéta l'inspecteur Flem.
Ça paraît déjà plus vraisemblable.
Denmouth était une station balnéaire à la mode non loin de là.
C'est à peine à 30 kilomètres d'ici, dit le chef de la police. La fille était danseuse ou quelque chose dans ce goût-là au Majestic. Elle ne s'est pas présentée sur la piste la nuit dernière, ce qui n'avait déjà pas été du goût de la direction. Voyant qu'elle était toujours absente ce matin, une des autres filles, ou je ne sais qui d'autre, a commencé à s'inquiéter. Tout ça n'est pas très clair. Vous feriez bien d'aller immédiatement à Denmouth, Flem. Présentez-vous au superintendant Harper et coopérez avec lui.
L'inspecteur Flem n'avait pas les deux pieds dans le même sabot. S'engouffrer dans une voiture, envoyer promener des gens qui l'assaillaient pour lui parler, couper court à des conversations sous prétexte qu'une affaire urgente l'appelait, pour lui, tout cela, c'était le souffle de la vie. Ainsi, en un rien de temps, il était arrivé à Denmouth, s'était présenté aux centrales de la police, avait eu un bref entretien avec un directeur d'hôtel affolé, puis, après avoir laissé ce dernier le réconfort précaire d'un « assurons-nous d'abord que c'est bien elle avant de tout déclencher », avait pris la route du retour en compagnie de la parente la plus proche de Ruby Keene. Avant de quitter Denmouth, il avait passé un rapide coup de fil à son patron. Celui-ci s'attendait donc à le voir débarquer, mais certainement pas à des présentations aussi cavalières que
« Voilà Josie, monsieur !»
Le colonel Melchett fusilla son subordonné du regard. Flem devait avoir perdu la tête. La jeune femme qui venait de descendre de voiture vint à la rescousse.
« C'est mon nom de scène !»
expliqua-t-elle avec un bref éclat de ses superbes dents blanches.
« Raymond et Josie !» On s'appelle comme ça, mon partenaire et moi. Alors, bien sûr, pour tout le monde à l'hôtel, je suis Josie. Mon vrai nom, c'est Joséphine Turner.
Ainsi mis en situation, le colonel Melchett invita Mademoiselle Turner à s'asseoir tout en jetant sur elle un rapide regard professionnel. C'était une jolie jeune femme, plus proche de la trentaine que de ses 20 ans, et dont l'attrait tenait davantage aux soins habiles qu'elle prenait de sa personne qu'à ses traits eux-mêmes. Elle paraissait posée, avoir bon caractère, être dotée de sens commun. Sans rien d'une beauté fatale, elle était néanmoins extrêmement séduisante. Son maquillage était discret et son tailleur sombre fait sur mesure. Bien qu'elle ait l'air préoccupée, le colonel ne la jugea pas particulièrement affectée par le chagrin.
« Ça semble trop monstrueux pour être vrai !» fit-elle en s'asseyant. « Vous croyez vraiment qu'il s'agit de Ruby ?»«
C'est justement ce que vous allez devoir nous confirmer. Je crains que ce ne soit pas une partie de plaisir. »«
Elle est vraiment si horrible que ça à voir ?» demanda Mademoiselle Turner avec appréhension.
« Ça risque de vous causer un choc. »
Il lui tendit son étui à cigarette. Elle en accepta volontiers une.
« Vous voulez qu'on y aille tout de suite ?»«
Le plus tôt sera le mieux. Vous interroger tant que nous ne sommes pas sûrs ne rimerait à rien. Autant régler la question, non ?
Oui, bien sûr. Ils se rendirent en voiture à la morgue.
Au sortir de sa brève visite, Josie paraissait au bord de la nausée.
« C'est bien, Ruby, » articula-t-elle en frissonnant. « Pauvre fille ! Mon Dieu, je me sens toute drôle !»
Elle jeta un regard éperdu autour d'elle.
« Vous n'auriez pas un peu de gin ?»
Il n'y avait pas de gin, mais du brandy. Après en avoir avalé une gorgée, elle sembla requinquer.
« Ça vous secoue de voir des horreurs pareilles, non ? Pauvre Ruby ! Les hommes sont vraiment des salauds, vous ne trouvez pas ?»«
Vous pensez que c'est un homme qui a fait le coup ?»
Josie parut légèrement décontenancée.
« Ça n'est pas le cas. J'aurais cru que... »
« Vous songiez à quelqu'un en particulier ?»
Elle secoua vigoureusement la tête.
« Non, non, pas du tout. Je n'ai pas la moindre idée. Vous pensez bien que Ruby ne m'aurait rien dit si... »«
Si quoi ?»
Josie hésita.
« Eh bien, si elle était... sortie avec quelqu'un... »
Melchett lui décocha un regard perçant. Il resta silencieux jusqu'à ce qu'il soit revenu à son bureau. Il reprit alors.
« Maintenant, mademoiselle Turner, je veux que vous me disiez tout ce que vous savez. »
« Oui, bien sûr. Par où dois-je commencer ?»«
Je voudrais les noms et adresses de cette fille, connaître la nature de vos relations, apprendre tout ce que vous savez sur son compte. »
Joséphine Turner acquiesça de la tête. Melchett se trouva confortée dans son opinion qu'elle n'était pas rongée par le chagrin. Elle était secouée, sans plus. Elle se montra volubile.
« Elle s'appelait Ruby Keane, pour la scène, j'entends. Rosie Legge, pour l'état civil. Sa mère était cousine de la mienne. Je l'ai toujours connue, mais pas plus que ça, si vous voyez ce que je veux dire. Des cousins, j'en ai à l'appel. » Certains dans les affaires, d'autres sur les planches. Ruby avait suivi des cours de danse. La saison dernière, elle avait même décroché quelques contrats. Rien de très glorieux, mais avec des compagnies de province de bon niveau. Depuis, elle avait été engagée dans la troupe du palais de la danse de Brixwell, au sud de Londres. C'est un endroit tout ce qu'il y a de plus convenable, où les filles sont bien traitées, mais ça paye mal.
Elle s'interrompit. Melchett lui fit signe de continuer.
C'est là que j'interviens. Depuis 3 ans, je suis danseuse et hôtesse de bridge au Majestic de Dunmouth. La place est bonne, le travail pas désagréable et bien rémunéré. Vous vous occupez des gens quand ils arrivent, avec un minimum de flair, bien sûr. Certains préfèrent qu'on leur fiche la paix, d'autres se sentent seuls et ont besoin qu'on leur tienne la main. Vous essayez de mettre en contact les amateurs de bridge, vous faites danser les jeunes entre eux. Ça demande un peu de tact et d'expérience. »
De nouveau, Melchett lui fit signe de poursuivre. Cette fille devait sûrement réussir dans son travail. Il lui trouvait un abord agréable, sympathique et de la finesse sans être intellectuelle.
« En plus, » poursuivit-elle, « je suis censée faire 2 numéros tous les soirs avec Raymond. Raymond Starr, le professeur de tennis et danseur mondain. » Or, ne voilà-t-il pas que cet été, en allant me baigner dans les rochers, je me suis fait une vilaine entorse.
Melchett avait remarqué qu'elle boitait légèrement.
Du coup, pas question de danse pendant un bout de temps. Ce qui était la poisse. Je ne voulais pas que l'hôtel embauche une doublure. C'est qu'il y a toujours un risque.
L'espace d'un instant, ses yeux bleus se firent durs et acérés, ceux d'une tigresse luttant pour son existence.
Le risque que la doublure en question vous souffle votre place sous le nez. J'ai donc pensé à Ruby et j'ai proposé au directeur de l'appeler. Moi, je continuerai à faire l'hôtesse, à m'occuper des joueurs de bridge et tout le reste. Ruby ne me remplacerait que pour la danse. De cette façon-là, ça restait dans la famille, vous comprenez ?
Melchett répondit qu'il comprenait.
Bref, ils ont accepté, j'ai télégraphié à Ruby et elle est venue. Une chance à saisir pour elle, d'une autre classe que ce qu'elle avait jamais fait auparavant. Ça remonte à 1 mois environ.
Je vois, fit Melchett. Et ça a marché ?
Oh, oui,
jeta Josie négligemment.
Elle a été très bien. Elle ne possédait pas mon niveau, mais Raymond a la manière. Il l'a épaulée. Et puis, elle était mignonne, vous savez. Taille de guêpe, cheveux blonds et frimousse de poupée. Elle forçait un peu trop sur le maquillage, d'accord. Je n'arrêtais pas de lui en faire la réflexion. Mais vous savez comment sont ces gamines. Elles n'avaient que 18 ans et à cet âge-là, il faut toujours qu'elles en fassent trop. Dans un établissement de la classe du Majestic, c'était plutôt mal vu. J'étais obligée de lui casser les pieds pour qu'elle le rende plus discret.
Les clients l'appréciaient, sans qui Melchett.
Oh oui. Elle n'avait guère de répartie, remarquez. Elle n'était pas très futée. Elle s'entendait mieux avec les hommes âgés qu'avec les jeunes.
Elle avait quelqu'un dans sa vie?
Pas au sens où vous l'entendez, ou du moins, pas que je sache. Mais de toute façon, elle ne me l'aurait pas dit. Sur le moment, Melchett se demanda pourquoi.
Josie ne lui donnait pas l'impression d'être un tyran.
Mais il ne releva pas.
Pourriez-vous m'indiquer maintenant quand vous avez vu votre cousine pour la dernière fois ?
Hier soir. Raymond et elle avaient deux numéros sur la piste, un à 22h30 et l'autre à minuit. Ils ont exécuté le premier. Après ça, j'ai remarqué qu'elle dansait avec un garçon qui réside à l'hôtel. Je n'en perdais pas une miette. Je jouais au bridge avec des clients dans le salon et un simple panneau de verre le sépare de la salle de bal. Je ne l'ai plus revue ensuite. Juste après minuit, Raymond est arrivé hors de lui. Qu'est-ce que fichait Ruby ? Elle n'était pas là, il fallait commencer. Je l'avais mauvaise, je ne vous dis pas. C'est avec des bêtises comme ça qu'elles se mettent les directeurs à dos, ces petites dindes, et qu'elles finissent par se faire saquer. Je suis montée dans sa chambre avec Raymond, mais il n'y avait personne. J'ai remarqué qu'elle s'était changée. La tenue dans laquelle elle avait dansé, une robe longue en mousseline rose, était jetée sur une chaise. D'habitude, elle garde la même, sauf les soirs de bal, le mercredi. Je ne voyais vraiment pas où elle avait pu filer. On a demandé aux musiciens de jouer un foxtrot supplémentaire. Toujours pas de Ruby. Alors j'ai dit à Raymond que j'allais faire le tour de danse avec lui. Nous avons choisi une danse qui ne solliciterait pas trop ma cheville et nous avons abrégé au maximum. Ça m'a quand même fait bigrement mal, j'ai le pied tout enflé ce matin. Ruby n'a pas reparu. Nous l'avons attendue jusque vers 2h du matin. J'étais folle de rage. Sa voix en frémissait encore. Melchett le remarqua et fut un moment surpris. Cette réaction lui paraissait un peu excessive au regard des faits. Il eut l'impression qu'elle lui cachait sciemment quelque chose.
Et ce matin, quand vous vous êtes aperçu que Ruby Keane n'était pas rentrée et que son lit n'avait pas été défait, vous avez prévenu la police ?
Il savait, d'après le bref message téléphonique reçu de Flemme depuis Denmouth, que tel n'était pas le cas. Mais il voulait entendre ce que Joséphine Turner allait dire. Elle n'eut aucune hésitation. « Non, répondit-elle, je m'en suis bien gardée. »«
Pourquoi donc, mademoiselle Turner ?»
Elle le regarda en face. « À ma place, vous en auriez fait autant. »«
Ah bon ?»«
Je tiens à mon job. Pour un hôtel, il n'y a rien de pire que le scandale, surtout quand il amène la police. » Et puis, je n'ai pas pensé qu'il était arrivé malheur à Ruby. Pas une seconde. Je me suis tout bonnement dit qu'elle avait fait l'andouille avec un garçon quelconque, qu'elle reviendrait le bec enfariné et que je lui passerais un savon qu'elle n'avait pas volé. À 18 ans, on ne se rend pas compte. Il faut leur mettre du plomb dans la tête à ces gamines.
Melchett fit mine de consulter ses notes.
Ah, effectivement. Je constate que c'est un certain Monsieur Jefferson qui a prévenu la police. Un client de l'hôtel ?
Oui, répondit-elle.
Qu'est-ce qui a poussé cet homme à intervenir ?
Josie caressait la manche de son tailleur. Elle paraissait mal à l'aise. De nouveau, le colonel Melchett eut l'impression que tout ne lui était pas dit.
« Il est infirme, expliqua-t-elle de mauvaise grâce. Il s'affole tout de suite. Un infirme, vous comprenez ? »
Melchett passa à autre chose.
« Et qui était le jeune homme avec lequel vous avez vu danser pour la dernière fois votre cousine ?»«
Il s'appelle Barlett. Il est à l'hôtel depuis une dizaine de jours.
Ils étaient très proches.
Pas particulièrement. De nouveau, une curieuse pointe de colère perça dans sa voix. Pour ce que j'en sais, du moins.
Et qu'est-ce qu'il dit de tout ça, lui ?
Qu'à la fin de la danse, Ruby est montée se repoudrer.
C'est à ce moment-là qu'elle se serait changée ?
Je suppose.
Et depuis, plus rien ? Elle a...
disparu, compléta Josie. Exactement.
Mademoiselle Keane connaissait des gens à St. Mary Mead ou dans ses alentours ?
Aucune idée. C'est possible. Il y a beaucoup de jeunes gens des environs qui vont à Denmouth et au Majestic, vous savez. Je ne peux pas savoir d'où ils viennent, à moins qu'ils ne le disent eux-mêmes.
Vous n'avez jamais entendu votre cousine parler de Gossington ?
Elle sembla tomber des nues. Gossington ?
Le manoir de Gossington.
Elle secoua la tête. C'est un nom qui ne me dit rien. Elle avait répondu avec une conviction dont la curiosité n'était pas absente.
C'est au manoir de Gossington, expliqua le colonel Melchett, que son corps a été retrouvé.
Dans un manoir ? Répéta-t-elle en ouvrant de grands yeux. C'est ahurissant.
Ahurissant, c'est le mot, songea Melchett. Connaissez-vous un colonel ou une madame Bantry ?
Elle secoua de nouveau la tête.
Ou un certain Basil Blake ?
Elle fronça les sourcils. Je crois avoir déjà entendu ce nom-là. Oui, j'en suis sûre, mais je ne vois pas du tout de qui il peut s'agir. Le diligent inspecteur Flemme glissa à son supérieur une page arrachée à son carnet et sur laquelle il avait griffonné quelques mots. Le colonel Bantry a dîné au Majestic la semaine dernière. Melchett leva les yeux et croisa son regard. Le chef de la police rougit. L'inspecteur l'accusait implicitement de protéger un vieux camarade d'école, de donner dans le favoritisme envers les gens de son milieu. Flemm lui était profondément antipathique, mais il ne pouvait pas ne pas relever. Il se tourna vers Josie.
« Mademoiselle Turner, j'aimerais, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, que vous veniez avec moi au manoir de Gossington. »
Ignorant presque le murmure d'assentiment de Josie, son regard froid défia celui de Flemme.